Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Don Jacques Bolduc de Saint-Benoît-du-Lac qui nous parle de Sainte-Catherine de Suède, aussi nommée Sainte-Catherine de Vadstena, née en 1322 et décédée en 1381 à l'âge de 59 ans. Elle était la fille de Sainte-Brigitte de Suède. Elle est souvent représentée en compagnie d'une biche. C'est aussi la sainte patronne des femmes enceintes et des risques d'avortement. Don Bolduc, bonjour.
Bonjour.
C'est quand même rare de parler de la sainteté de mère en fille.
Oui, c'est exceptionnel. Mais alors, dans ce cas-là, ici, c'est un cas vraiment exemplaire. C'est vraiment magnifique.
On est donc au 14e siècle. L'Occident est déchiré par un grand schisme. Il y a une crise pontificale qui touche ce catholicisme à cheval entre le 14e et 15e siècle. Le catholicisme est en pleine ébullition.
Oh, c'est une période extrêmement difficile. Oui. D'ailleurs, le pape n'était même pas à Rome, il était à Avignon. À cette époque-là.
Oui, tout à fait. Et donc, il y avait deux papes, le pape d'Avignon, le pape de Rome. Enfin, ça s'est peu à peu réglé. En Scandinavie, ça commence à remuer en Scandinavie. Il y a un esprit de réforme qui commence à se faire jour, non?
Oui, quelques années après, le protestantisme va prendre tout le pays, finalement. Alors, ça va devenir un pays luthérien.
La Suède, puisqu'on va parler de la Suède, est luthérienne officiellement, je pense, non?
Ah oui. Même les gens, pendant longtemps, jusqu'au début jusqu'à l'an 2000, les gens du pays ne pouvaient pas être catholiques. C'est la religion du pays, c'est le luthéranisme.
Ah bon, d'accord.
Mais seulement actuellement, il y a un petit relâchement.
Don Bolduc, on parle de Catherine de Suède, la fille de Brigitte de Suède, deux grandes saintes suédoises. Il y a quand même eu à peu près un millier d'années, peut-être plutôt 500 ans de catholicisme en Suède.
Ah oui. Il y avait déjà des catholiques en Suède à ce moment-là.
Oui.
Il y avait déjà toute une vie catholique qui était assez développée. Mmh. Il y avait des monastères, puis il y avait plusieurs communautés qui étaient là. Les Dominicains étaient là avec les Franciscains, qui faisaient un bon travail. Mmh. Et puis, il y avait des évêques, puis il y avait une vie qui était... le christianisme avait pris plus solidement position dans le pays.
Mmh. Alors, Catherine est fille de Brigitte. Les deux, donc, sont d'une famille royale en Suède, non?
Oui, c'est des familles de la plus haute noblesse. Même Brigitte, à un moment donné, a été comme le premier ministre du pays. Lorsque le jeune roi, là, Magnus, est arrivé au pouvoir, il avait marié une petite fille de 13-14 ans. Et puis, il est arrivé. Alors, le roi Magnus a demandé à Brigitte, qui était une femme très, très forte, vous savez, puis quelqu'un de remarquable, là, de s'occuper un peu de la jeune reine, et puis de s'occuper un petit peu aussi de le conseiller. Alors, elle a joué un rôle très important dans l'administration du pays.
Donc, Brigitte de Suède va épouser Ulf Gudmarsson, prince et sénéchal. Elle aura 8 enfants de lui. C'est beaucoup.
Ah oui, puis ça va jouer un rôle très important dans l'administration du pays à cause de sa proximité avec le jeune roi qui est devenu roi à l'âge de 19 ans.
Oui, d'accord.
Alors, quand il était jeune, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de lui. Puis, enfin, il était pratiquement régent du pays.
Et elle va... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très occupés, ils ont 8 enfants, évidemment, mais en même temps, Brigitte de Suède, la mère de Catherine de Suède dont il est question, va adopter la règle des tertiaires franciscains. Pour quelle raison?
Oui. En fait, c'est une femme très religieuse. Hein. Avec son mari, c'était un couple très, très religieux. Et puis, c'était des gens qui sentaient le besoin de faire du bien, vous savez. Alors, quand on lit l'histoire de cette femme-là, là, puis son mari, cette famille-là, c'était des gens qui faisaient du bien, qui aidaient les pauvres, puis qui s'occupaient de tout le monde. Et puis, c'était des gens qui étaient orientés, vous savez, pour eux autres, vivre leur vie. C'était vivre avec le Christ, puis travailler pour l'Église, et puis pour travailler pour les pauvres, pour les malades. Alors, c'est une femme qui se dévouait Lambert, là, puis enfin, qui c'est une sainte, d'ailleurs. Mais seulement, durant toute sa vie, là, elle a fait le travail de l'aide aux pauvres, plus malades.
Elle va même fonder un monastère qui est très connu en Suède, c'est le monastère de Vadstena, qui est, mettons, à 100-150 km de Stockholm.
Oui, oui, c'est un monastère qui est célèbre, seulement, évidemment, quand il y a eu la conversion du pays au protestant, au luthéranisme, le monastère a été supprimé. Mais seulement, au début du siècle, il a recommencé une vie. Maintenant, durant toute cette période-là, à partir de la fondation de ce monastère-là, l'ordre des Brigittines, parce que Sainte Brigitte, elle a fondé un ordre religieux. Et puis, cet ordre-là a fondé des monastères dans différents pays. Par exemple, aux Indes, il y a toute une tradition de religieuses brigittines. Et puis ensuite, ça aussi au Mexique. Et puis, dans différents pays comme ça, c'est l'ordre des brigittins et des brigittines, surtout. Oui. C'est développé beaucoup dans différents pays comme ça. Alors, c'était vraiment un travail apostolique, un travail remarquable.
Et je pense qu'elle suivait la règle de Saint-Augustin, non?
Oui, elle suivait la règle de Saint-Augustin, mais c'était des religieuses d'inspiration franciscaine, parce que j'étais des franciscains là, dans la home, là, puis après, ils suivaient cette inspiration-là de Saint-François.
Donc, Brigitte de Suède aura 8 enfants, notamment Catherine, qui deviendra plus tard Sainte Catherine de Suède. Oui. Encore une fois, ça, je trouve ça frappant de voir qu'une mère devient sainte et la fille aussi devient sainte. Oui. On a rarement ça de père en fils ou de mère en fille.
Ben oui, c'est exceptionnel, mais c'est possible.
C'est pas, évidemment. Alors, est-ce qu'on sait beaucoup de choses sur Catherine de Suède ou pas?
Catherine de Suède, il n'y a pas beaucoup de livres. Par exemple, sur Brigitte, là, il y a à peu près ici, nous, dans la bibliothèque, on a une vingtaine d'ouvrages sur Brigitte. Oui. Mais sur Catherine, il n'y a pas beaucoup de choses. Parce qu'elle a vécu dans l'ombre de sa mère, qui avait un poste très important, qui était l'assistante même du roi à un certain moment. Et puis, enfin, c'est une femme qui était très connue, puis qui a fondé une communauté religieuse aussi. Et puis, qui a eu des fondations dans différents pays, enfin, tout ça. Alors, elle a vécu un peu dans l'ombre de sa mère durant la première partie de sa vie, surtout. Et puis, avec elle, ben, elle s'est associée progressivement avec sa mère. Et puis là, elle a fait une très belle œuvre. C'était une vie magnifique. On vivait quelque chose. C'est une très grande sainte.
Il paraît que même enfant, Catherine de Suède, ça c'est ce qu'on raconte d'elle, elle avait repoussé une nourrice de vie qui était coupable, je ne sais pas trop quoi. Elle ne voulait pas avoir son lait. Par la suite, elle dira plus tard que gamine, le démon la poursuivait. Il prenait la forme d'un taureau pour l'épouvanter, alors qu'elle avait un petit corps frêle et délicat.
Ah oui.
Ça montre déjà un caractère.
C'est une personne qui avait une vie spirituelle très, très profonde.
Ah oui?
D'ailleurs, avec sa mère, évidemment, sa mère est une grande sainte. Et puis, elle lui a communiqué toute son ardeur, son amour de Dieu, puis tout ça. Et alors, elle a reçu d'une formation dans une communauté religieuse.
Oui, oui.
Et puis, jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans, là, eh bien, elle a vécu là, puis enfin, elle voulait demeurer dans ce cours, mais seulement son père l'a mariée, un peu malgré elle.
Oui.
Comme ça se faisait dans ce temps-là. Alors, mais quand elle est arrivée avec son mari, eh bien, qui était un homme plus âgé qu'elle, qui avait peut-être 25 ans, et puis, mais c'était un très bon bonhomme, un homme très, 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 très chrétien. Elle lui a dit qu'elle aurait voulu être religieuse. Et puis alors, mais comme elle était à ce moment-là une petite fille de 13, 14 ans, eh bien, son mari lui a dit, bien, écoutez, il y a tellement de différence d'âge entre nous deux, vous pouvez continuer d'aspirer à la vie religieuse, puis enfin, de vivre une vie de religieuse, même avec moi. Alors, il dit, je vais vous accompagner, puis il dit, je vais respecter votre vœu. Alors, c'est assez... Elle est tombée sur un homme très, très, très bon, un homme, un saint homme, mais qui avait une santé très faible. Ah. C'est un homme qui avait une responsabilité politique, sociale importante. Il y avait des charges administratives, puis il y avait une formation juridique. Mais seulement, il avait, malgré sa fonction qui était importante, alors il avait une vie spirituelle très profonde. Puis il a accepté de vivre avec elle, comme ça, comme frère.
Comme deux célibataires, même s'ils étaient mariés, ils n'ont pas consommé le mariage.
Ils étaient mariés, mais seulement, ils ont accepté de vivre ensemble comme frère et sœur.
Catherine de Suède ensuite ira à Rome parce que la mère Brigitte est encore dans les parages, mais la mère est allée faire le bien à Rome et la fille va la rejoindre alors que laissant son mari en Suède qui va mourir peu après, je pense.
Oui,
et qu'est-ce qu'elle va faire à Rome avec ça? Mais qu'est-ce que Catherine va faire avec Brigitte, sa mère, à Rome?
Bien, c'est que sa mère est allée à Rome pour faire approuver sa communauté religieuse. Elle était fondatrice d'une communauté religieuse, mais elle voulait se faire approuver par Rome. Alors, il fallait faire des négociations pour tout ça. Alors, Catherine est allée rejoindre, demander permission à son mari de faire un petit voyage à Rome pour rester avec sa mère, pour l'aider pendant son séjour là-bas. Mais l'homme, malheureusement, son mari est décédé peu de temps après son départ de Rose. Mais elle s'est rendue à Rome, puis là elle a fait une vie de sainte personne à Rome. Alors, avec sa mère, il visitait les églises et puis il travaillait dans des hôpitaux pour soigner les pauvres parce que c'est des gens vraiment, vraiment très, très saints, vous savez. Alors, il soignait les pauvres et puis enseignait le catéchisme aux enfants et puis elle visitait les tombes des martyrs et puis tout ça. Il vivait une vie spirituelle très intense à Rome. Très pauvre aussi. C'était l'esprit franciscain, hein. Alors, j'étais les tertiaires franciscaines, alors ils vivaient comme ça. Alors, ils ont vécu ensemble pendant 5-6 ans, et même 7-8 ans à Rome, comme ça. Et puis, alors, à un moment donné, sa mère est décédée. Oui. Alors, elle, là, à ce moment-là, elle avait 50 ans. Alors, elle a reconduit le corps de sa mère au pays, en Suède. Mais c'était un voyage, vous savez, qui était extraordinaire. Parce qu'elle était déjà célèbre à cette époque-là. C'est une femme qui était connue à travers toute l'Europe. Et puis, alors, sous le passage de son corps était retourné. Alors, dans toutes les villes où elle arrêtait, puis enfin, il y avait des foules qui se rassemblaient. Puis, enfin, ça a été vraiment un voyage triomphal parce qu'elle était déjà considérée comme une sainte de son vivant.
Et c'est pas pour rien que Saint Jean-Paul II a nommé Brigitte de Suède copatronne de l'Europe, hein?
Ah oui, justement.
Tout à fait, hein?
C'est une femme qui était célèbre en Europe. Par sa sainteté, puis enfin, elle était reconnue par tout le monde. Mais malheureusement, là, elle n'a jamais été déclarée par Rome bienheureuse ou sainte. Ni Brigitte, ni Catherine.
Catherine, c'est parce que le pays est passé au protestantisme.
C'est que le pays est passé au protestantisme, puis il y a eu toutes sortes de négociations, puis tout ça. Puis alors, finalement, bien, elles étaient considérées toutes les deux comme des saintes, mais il n'y a pas eu de déclaration officielle de canonisation officielle par Rome. C'est assez curieux, quand même. Mais c'était des personnes qui étaient vénérées par tout le monde et puis qui étaient considérées comme des saintes.
Avant une certaine époque, la sainteté n'était pas déclarée par l'Église, mais par le peuple, non?
C'est le peuple, justement, oui.
Oui. Dans Bolduc, on va devoir arrêter ici.
Ils arrivaient à faire un problème, c'est que Catherine, elle était très belle. C'était une bonne blonde.
Ah ben oui. Et donc, elle avait beaucoup de prétendants qu'elle a dû conduire tout le temps.
Quand son mari est décédé, les jeunes seigneurs à Rome courent après elle. Et puis quand elle sortait pour aller visiter les églises, les gens la remarquaient. Puis, hey, c'est elle, la belle suédoise.
Donc, on veut qu'on doit arrêter ici.
Il a fallu qu'elle s'organise pour passer inaperçue.
Don Bolduc, on va arrêter ici. Don Bolduc de Saint-Bernard-du-Lac, vous nous parliez de Sainte-Catherine de Suède et également Sainte-Catherine de Vadstena, née en 1322 et décédée en 1381. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on parle de Saint-François de Paule. Ça vous va?
Ah oui, ça va.
Parfait. Voilà, c'est la fin de l'émission. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité et je vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio VM.